Le journal Mireille Boucassin.
Les adeptes de Bundundia Congo qui avaient fui en brousse regagnent petit à petit leur village. D'autres craignent les représailles de la police, mais les autorités du Bas-Congo, qui se veulent rassurants, les invitent à sortir de leur cachet. Lundi 24 mars, journée internationale de lutte contre la tuberculose. Entre-temps, en République démocratique du Congo, la population souffre de plus en plus de cette maladie qu'elle n'en guérit. Un responsable du programme national de la lutte contre la tuberculose nous en donnera les causes dans ce journal. Dans la seconde partie de ce journal, nous irons à Goma. La sécurité gagne du terrain dans certains quartiers de cette ville du Nord Kivu. Hier dimanche, 3 personnes ont été tuées, dont 2 par balle et une autre poignardée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les adeptes du mouvement politico-religieux qui avaient fui en brousse lors des affrontements qui les avaient opposés à la police en début du mois commencent à regagner petit à petit leur village. Mais par crainte de représailles de la police, beaucoup d'entre eux n'osent pas encore se montrer. De leur côté, les autorités politico-administratives du Bas-Congo se veulent rassurantes quant à la sécurité de ceux qui veulent rentrer chez eux. Paul Kaboba.
Ce dimanche, une dizaine d'entre eux sont arrivés dans le village de Lufuku et Lundala, dans le secteur de Mbazaniembe, territoire de Luozi. À Lukula, ils étaient une cinquantaine. Ces adeptes du BDK ont organisé une marche pour dénoncer le mouvement Bundundia Congo. Marche encadrée par les agents des services de renseignement et par la police. Selon des membres du BDK, d'autres sont encore dans la forêt, craignant d'être arrêtés par la police. Intervenant sur une radio locale, Justin Louemba, député provincial, les a invités à quitter leur cachette. Le chef de cité de Lukula s'est aussi voulu rassurant. À Lufuku, dans le territoire de Luozi, 6 adeptes du BDK sont sortis de brousse. D'autres se sont encore présentés au bureau de la localité de Kitenge. Selon les premiers retournés, à Kitenge par exemple, la police exige 10 100 Congolais à tout membre du BDK qui rentre au village. L'inspecteur provincial de la police affirme ignorer cette situation. Le général Raoul Tialoué promet néanmoins de mener des enquêtes à ce sujet. Matadi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
En parlant des BDK, vous savez peut-être, le gouvernement congolais a retiré l'autorisation de fonctionnement de ce mouvement politico-religieux. L'exécutif national affirme être en droit de prendre cette décision sans passer par des concertations au cas où ce groupe ne respecte pas les clauses. D'après ces propos du ministre près, le premier ministre, à côté du social, cette association avait des activités incompatibles à sa mission. Godefroy Mayobo ajoute, je cite, face à la menace qui pesait sur la sécurité dans ce coin, il était nécessaire pour le gouvernement de prendre cette mesure. Il le dit au micro de Alain Hirong.
C'est dans le cadre social que cette association a été autorisée à fonctionner. Mais voilà que le gouvernement constate que l'association a aussi d'autres types d'activités incompatibles ou qui ne cadrent pas avec l'autorisation reçue. Mais celui qui a donné l'autorisation a parfaitement le droit de retirer. Il n'a pas à aller consulter qui que ce soit. Ça, c'est de l'anarchie. Et là, je crois que c'est quelque chose que nous devons absolument clarifier. Il y a des gens qui croient que la démocratie, ça veut dire tout le monde a les mêmes prérogatives, chacun peut remplacer l'Assemblée nationale, chacun peut remplacer le gouvernement, chacun peut faire office des chefs de l'État. Ce n'est pas vrai. On n'avait pas pour se prononcer sur des situations, des dangers, des sécurités ou des pacifications sur le territoire national que le chef de l'État, le président de la République et le gouvernement soient obligés de passer à des consultations et qui ont un caractère de demande d'explication ou d'autorisation préalable. Non.
Radio Capi a également abordé l'affaire de l'interpellation du Premier ministre. À ce sujet, Godefroy Mayobo indique que c'est un dossier déjà réglé car la demande a été jugée irrégulière par l'Assemblée nationale. Pour Godefroy Mayobo, le Palou n'a aucune précaution à prendre par rapport à ce problème. Selon lui, si une interpellation est déposée, elle concerne le Premier ministre dans son action par rapport à la nation et non le Palou seulement. Nous l'avions dit dans le sommaire, ce 24 mars, c'est la journée internationale de lutte contre la tuberculose. En République démocratique du Congo, il y a de plus en plus des cas de tuberculose enregistrés et une diminution des cas de guérison. Selon le directeur adjoint du programme national de la lutte contre la tuberculose, deux défis restent à relever, notamment une forme de tuberculose qui demande beaucoup plus de moyens et la combinaison du VIH-SIDA à la tuberculose. Docteur Jean-Pierre Kaboigny au téléphone avec
avec Nadine Foula.
Dans chaque zone, il y a au moins 3 structures où se font les diagnostics de la tuberculose et les autres structures sanitaires qui sont dans la zone de santé servent de lieu du traitement puisque nous voulons effectivement que les médicaments se donnent le plus proche du lieu où restent les malades. Les médicaments sont donnés régulièrement à toutes ces structures et que ces médicaments sont gratuits.
Si pour faire une comparaison par rapport aux années antérieures, à quel chiffre s'élève le nombre de malades?
103 000 en 2007, 2006, 98 000. Et si on descend vers 2005, c'était 95 000. Donc, à un certain moment, effectivement, ce nombre augmente. Il y a encore d'autres difficultés, des défis que le pays doit relever. La prise en charge des cas de tuberculose à bacille résistante. Il y a cette émergence de cette chousse de tuberculose qui ne répond plus au traitement usuel. Et le deuxième défi, c'est cette association de la tuberculose et du VIH-Sida qui pose des problèmes dans la gestion du programme.
Notez que la commémoration de cette journée a été marquée par des manifestations à travers le pays. À Kinshasa, par exemple, une marche était organisée à cet effet. En Ituri, par contre, la prise en charge des malades tuberculeux s'est améliorée depuis l'année dernière. Le bureau de coordination de lutte contre la tuberculose dans ce district justifie cette amélioration par la présence dans chaque zone de santé d'au moins un centre de dépistage et de traitement de cette maladie. Notre consoeur Suzanne Zobo a visité ce lundi matin le centre de santé de Mundi Maria à Bunia. Ce centre prend en charge une centaine des malades tuberculeux. Écoutons son reportage.
Munis chacun d'un gobelet à la main, ces malades se présentent chaque jour très tôt le matin devant le bureau de l'infirmier responsable du centre en charge de la lutte contre la tuberculose. À l'appel nominal, ils passent à tour de rôle prendre un comprimé qu'ils boivent obligatoirement en présence de l'infirmier. Certains malades viennent des zones de santé autres que celles de Bounia. Parmi eux, il y a Ouyera, jeune, venu de la cité de Mongualou, à 75 km au nord de Bounia. Elle a témoigné l'évolution de son état de santé depuis le début de son traitement il y a environ un mois.
J'ai
passé 3 ou 4 jours après avoir pris les médicaments, j'ai constaté un changement et pour moi c'est une grande satisfaction. Je demande à ceux qui refusent de se soigner, bien qu'ils aient la toux et qui croient que la tuberculose est une maladie honteuse. Il n'y a pas de honte en matière de santé. Il vaut mieux qu'ils viennent se faire soigner. Dans ce centre, on déplore surtout le fait que certains malades, dont le domicile est très éloigné, n'achèvent pas leur traitement. Sur environ 90 personnes qui s'y font dépister, près de la moitié sont déclarées positives. Bounia, Suzanne Zobo-Odra, Radio Okapi.
Restons à Bounia, mais parlons d'autre chose. Iska Wapanga Mandro a été transféré samedi dernier au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK. Selon le porte-parole intérimaire de la MONUC, le transfert de l'ancien leader du groupe armé Pusik a été exécuté sur demande de l'auditeur général près la haute cour militaire à Kinshasa. Il a été transféré à Kinshasa après avoir passé près de 3 ans de détention dans une base militaire de la MONUC à Bounia. C'était bien sûr sur demande des autorités judiciaires congolaises. Jean-Paul Bassila.
À l'aéroport de Bounia samedi dernier, Ilkawa a été embarqué au bord d'un aéronef de la MONUC à l'abri de toute la presse locale. Ce lundi, sa femme a déclaré que l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri lui a accordé 5 minutes d'échange avec son mari avant d'être embarqué pour Kinshasa. Elle et l'avocat conseil de son époux ont salué ses transferts. Maître Modeste Maguené, avocat au barreau de Kisangani.
Le fait de quitter ses liens pour aller à Kinshasa, eh bien, nous sommes très contents au nom de tous les collectifs des avocats de Kawa. Même nous, les avocats, il fallait qu'on soit autorisés pour communiquer avec lui. Mais aujourd'hui, un de nous peut aller à la prison centrale de Matara, je pense, avec sa carte d'avocat, mais il entre facilement. Mais d'abord, c'est très proche de l'auditorat général des forces armées de la haute cour militaire, puisque les dossiers de Kawa est maintenant pendant devant la haute cour militaire. Alors, si Kawa reste là, va tout près. C'est bon. Donc, s'il veut l'entendre, ce sera très facile. Ça peut faciliter aussi la prompte instruction de son dossier.
Ilkawa est objet, depuis le 1er mars dernier, d'un nouveau mandat d'arrêt signé par l'auditeur général de FARDC près la haute cour militaire. Ces derniers les poursuit notamment pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ainsi que pour coups et blessures aggravées. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
économistes et au moins 8 membres du gouvernement qui constitueront le panel chargé de révisiter les contrats miniers. À ce cercle s'ajouteront des experts dont le mode de sélection n'est pas encore connu. Ce panel aura pour mission de rééquilibrer la part de l'État dans les différents partenariats. Le but de la révisitation n'est pas de résilier les contrats miniers, mais de les réajuster. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre congolais des Mines, Martin Kabouelulu. Vous l'écouterez, affirme aussi que le panel examinera ces contrats cas par cas. Il est au micro de Georges Kamoudjoura.
S'il y a des entreprises qui vont dans le sens des exigences du gouvernement, eh ben c'est un travail déjà fait. Nous sommes heureux de vous dire qu'il y a certaines entreprises qui sont dans le sens des exigences du gouvernement. En ce moment, nous les appellerons pour tout simplement constater, pour gagner du temps, nous n'allons pas refaire des nouveaux contrats, mais plutôt nous allons signer des avenants pour corriger les dispositions déséquilibrées dans l'ancien contrat. Nous allons garder la charpente des anciens contrats et tout simplement changer les dispositions sur lesquelles nous devons changer. Et lorsque nous allons discuter avec les partenaires qui ont signé des contrats, ne vous en faites pas, nous n'allons pas discuter simplement avec les investisseurs étrangers, avec aussi les comités des entreprises qui ont signé. Les deux parties seront devant le panel des ministres. S'ils sont dans la même voie que les exigences du gouvernement, en ce moment, il n'y a pas de problème. Dans le cas où on n'est pas dans la même voie, nous allons essayer de renégocier pour trouver ce qu'on dit un modus vivendi, un équilibre.
Pour sa part, le ministre belge des Affaires étrangères se réjouit de la publication du rapport de révisitation des contrats miniers. Selon Karel de Gucht, je cite, « Cet acte de transparence est sans conteste un fait positif. Je souhaite donc, poursuit-il, exprimer mon appréciation pour cette décision du gouvernement congolais. » Fin de citation. Dans un communiqué rendu public ce lundi par l'ambassade de Belgique à Kinshasa, le ministre de Gucht souligne l'importance que peut avoir le processus de révision, mais aussi ses dangers. Selon lui, une éventuelle renégociation doit profiter au peuple congolais. Il ne peut donc pas y avoir de tabou. Dans la seconde partie de ce journal, nous irons à Goma. La sécurité gagne du terrain dans certains quartiers de cette ville du Nord Kivu. Hier dimanche, par exemple, 3 personnes ont été tuées, dont 2 par balle et une autre poignardée. Suivez d'abord l'actualité en plus bref. 22 joueurs de la sélection nationale de football de la RDC s'entraînent en ce moment sur le terrain du château de Chantilly et dans la région parisienne en France. Les Léopards préparent les matchs amicaux qu'ils livreront mardi contre les Panthères du Gabon et mercredi face au Fennec d'Algérie. En dehors de nos frontières, le principal parti d'opposition au Zimbabwe, le mouvement pour les changements démocratiques MDC, dit craindre un bourrage des urnes lors des élections générales de samedi prochain. Ils évoquent l'impression de millions de bulletins de vote excédentaires. Le porte-parole de ce parti dit ne pas comprendre pourquoi la commission électorale a commandé 9 millions de bulletins de vote alors qu'il n'y a que 5,9 millions d'inscrits sur les listes électorales.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
D'abord le Katanga, Pelikipela Mundo. Le centre de choléra de Likasi connaît une baisse sensible des cas.
Effectivement, Mireille et les superviseurs de ces centres affirment que depuis 2 semaines, ils enregistrent en moyenne 7 cas par jour au lieu de 150 précédemment. Cependant, Jean-Jacques Massango exprime la crainte de voir cette épidémie se transformer en une pandémie. D'après lui, les mesures d'hygiène ne sont pas respectées par les habitants de certains quartiers populaires de Likasi, notamment dans la construction des toilettes.
Pendant 6 jours, 2 personnes ont été tuées par balle et une autre poignardée.
C'est le résultat de l'insécurité enregistrée dans certains quartiers de la ville de Goma. Toutes ces personnes ont été victimes des attaques perpétrées par des hommes armés non autrement identifiés selon la police. Ces hommes armés ont commis ces forfaits en cherchant à rançonner les gens et à cambrioler certaines habitations, comme nous l'explique Sifa Magour.
D'abord, au quartier Keshiro, dans la nuit de dimanche, aux environs de 19h locales, la victime, un homme âgé de 38 ans, a été tué d'une balle alors qu'il voulait s'enquérir de la situation de son voisin, dont des bandits armés tentaient de cambrioler l'habitation. Dans la fuite, ces mêmes bandits ont pillé plusieurs passants, tous habitants des quartiers Keshiro. Les habitants de ces quartiers indiquent que c'est depuis un mois que plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés. Ces habitants vont jusqu'à pointer du doigt certains évadés de la prison qui ont été les domiciles dans leur quartier. D'autre part, dans le quartier Himbi 2, un autre homme a été poignardé à la tête par des hommes armés alors qu'il regagnait son domicile au quartier Keshiro. Samedi dernier, dans le quartier Ndosho, c'est un civil candidat volontaire aux patrouilles nocturnes qui a été tué par balle à 150 mètres de son habitation. Pour la police qui a ouvert des enquêtes, il s'agit des deux groupes des bandits qui ont opéré simultanément dans ces différents quartiers et qui ont réussi à s'échapper avant leur intervention. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
L'équipe-là terminant par la province orientale, précisément à Ubundu, où une vingtaine de passagers sont en détresse depuis environ 2 mois.
C'est plus de 20 personnes qui attendent un bateau de la Société nationale des chemins de fer qui doit les amener à Kindu dans le Maniema. Ces passagers affirment éprouver d'énormes difficultés faute de liquidités, mais le directeur provincial de la SNCC, Aki Sangani, ne reconnaît pas avoir enregistré des passagers à destination de Kindu via Ubundu en raison d'une panne de ses locomotives. Il promet néanmoins que la situation pourrait se décanter dans plus ou moins une semaine.
Et en attendant, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Okapi.